Les conférences du Collège de France.
Bonjour à toutes et à tous. On est à la dernière de nos séances. Et le temps passe vite, n'est-ce pas? Et dans cette dernière conférence, vous avez à l'écran un petit schéma. Je vais discuter d'abord de la transmission orale des idées et de certaines traditions telles qu'elles se reflètent dans l'historiographie byzantine du XVIe siècle, première partie. Dans la seconde, j'aimerais évoquer les problèmes du multilinguisme dans la société de l'Antiquité tardive à travers l'analyse de quelques cas spécifiques dans le contexte égyptien. Et cela me permettra de proposer un autre type de mise en contexte des œuvres que j'appellerai, faute de mieux, mise en contexte dans le quotidien. Et ensuite, quelques minutes de conclusion. Cette fois, nous commençons par Constantinople et par la période du bouillonnement culturel qui est généralement appelée classicisme justinien. Parmi les œuvres littéraires produites dans les décennies du règne de Justinien, l'une d'elles se distingue, malheureusement incomplète et peu connue, malgré son grand intérêt. Il s'agit du dialogue de la science politique, en grec peripolitikis epistimis, dont l'auteur est anonyme. C'est un dialogue dans lequel les référendaires Thomas et les patrices Menas débattent des principes de la science politique, de la théorie de la royauté et d'une forme de constitution qu'ils appellent disiarchique, c'est-à-dire le gouvernement des justes. Une forme qui s'ajoute aux trois formes bien connues de constitution de l'époque classique. L'œuvre est composée de 6 livres, mais il nous reste seulement des parties des livres 4 et 5, grâce à l'une des brillantes incursions d'Angelo Mai dans les palinsestes de la Bibliothèque Vaticane. Et les palinsestes, ce che vous avez à l'écran. A 1826, Angelo Mai s'est rendu compte que, parmi les pages réutilisées pour restaurer un manuscrit du Xe siècle, un codex qui contient le discours de Lius Aristide, un notaire qui était très apprécié par les Byzantins, figurait dans ces pages, dans la scriptio inferior, un texte totalement inédit, appartenant à un genre qui connaît une certaine fortune à l'époque tardo-antique, celui des traités sur des pouvoirs et ses formes. Suite à l'édition d'Angelo Mai, qui vous voyez indiqué à l'écran, le texte n'a été réédité que plus d'un siècle après par Carlo Maria Mazzucchi. Il faut utiliser la deuxième édition 2000D. Il existe aussi, outre la traduzione italienne di Mazzucchi, una traduzione inglese di Peter Bell, alors que le texte n'a malheureusement pas encore été traduit en français. Et c'est un peu dommage parce que c'est un texte vraiment intéressant. La datation n'est pas certaine et les avis se partagent en 532 et 540 ou les dernières années du règne de Justinien. Moi, je préfère la datation la plus haute, à vrai dire. De l'auteur, nous ne savons rien et ne pouvons faire que des spéculations. Le patriarche Photius, 9e siècle, qui lisait encore l'œuvre dans son intégralité, ici vous avez le chapitre 37 de la bibliothèque, comme vous voyez, appelle les deux protagonistes, Thomas et Menas, e non Taumasios e Menodoros, come sono appelati nel dialogo. E se Menas a été identifié par certains savants avec le préfet du prétoire, en 528-29, e la paternité du dialogue lui a été attribuée. Une attribution qui n'est pas sans vraisemblance, à vrai dire. Donc, même si le dialogue est anonyme, on peut parler de Menas comme de son auteur. L'œuvre, qui affronte des problèmes que nous trouvons exprimés sous d'autres perspectives dans une grande partie de la littérature d'époque justinienne, je pense à Jean de Lydiane, à Procope ou au diacre Agapète de Constantinople, présente, entre autres motifs d'intérêt, une bonne connaissance de la philosophie néoplatonicienne et surtout l'ouverture à des traditions non helléniques. En premier lieu, la tradition latine, l'auteur est capable de citer Cicérone, Sénèque et Juvénal, et la présence de Juvénal à Constantinople au XVIe siècle, c'est pas, c'est quelque chose d'un peu surprenant. Même si les latins étaient connus à cette époque-là, dans la capitale de l'Empire d'Orient. Mais l'auteur mentionne aussi le costume des Francs et des Perses. Et c'est justement sur les Perses que je voudrais discuter un peu plus en profondeur. Au livre 4, il y a un excursus dédié au costume des Perses. Le livre parle des tactiques qu'il faut employer pendant la guerre. Et l'auteur aborde l'organisation militaire des Perses et à un certain moment il raconte une anecdote sur les rois Péroz ou Firouz selon les différentes prononciations. C'est un roi qui a vécu dans la seconde moitié du 5e siècle. Je vais lire la traduction. Alors qu'un roi perse nommé Péroz partait en guerre avec son armée et était toujours en train de traverser son territoire, un soldat, comme son cheval manquait de force, prit avec l'assentiment du décurion quelques épis verts et en nourrit l'animal. Le propriétaire des épis s'écria qu'il avait été maltraité et le roi, l'ayant appris, ordonna qu'on amenait devant lui les paysans et les soldats avec les décurions et après avoir entendu l'accusation, il assembla ses officiers et dit: si notre État n'avait qu'une seule espèce d'arme avec laquelle précisément il puisse vaincre ses ennemis, quoi qu'il soit autrement plus fort, et si quelqu'un était surpris en train de la détruire ou de la faire disparaître, quelle peine celui-ci ne mériterait pas de subir? Lorsqu'il se furent écriés, un tel homme aura la mort la plus atroce, lui, ses enfants et toute sa famille. Il poursuivit: le fait que les Romains sont plus forts que nous, que leurs chevaux, les arcs, leurs flèches, leurs lances sont plus forts que les nôtres, est sans doute manifeste aux yeux de tous. À cela, nous n'opposons qu'une seule arme dont nous nous munissons contre nos ennemis, la justice, en gouvernant nos sujets avec douceur et humanité. Ceci, dit-il en montrant les soldats qui avaient pris les épis et les décurions, ont été surpris en train de brûler cette même arme, pour ainsi dire, en y mettant feu, quelque infime que soit, les matériaux à brûler. Ces faits infimes, que l'on allume pour détruire ce qui l'entoure, n'est-il pas identique à l'injustice qui n'est pour des motifs infimes quand celle-ci n'est pas réprimée? Arrêter ou réprimer l'un et l'autre, lorsqu'ils ont grandi et pris de la vigueur, et au-delà de la capacité humaine. Ayant dit cela, il ordonna que les décurions fussent empalés, que les soldats fussent lapidés par l'armée, et même que leur commandant, Chiliarque, reçut quelque autre châtiment. Le but de cette digression est évident. Et la figure de Firouz était connue à Constantinople. Procope, par exemple, dans ses histoires, il le cite plusieurs fois. Mais l'histoire racontée par l'auteur anonyme ou menace du dialogue n'est connue par aucune autre source. On a même supposé que l'auteur eut des origines orientales juste à cause de cette anecdote. Quelquefois, les savants spéculent un petit peu, n'est-ce pas? Ce que l'on peut dire, c'est qu'il est probable que l'auteur du dialogue ait pioché dans le riche répertoire des histoires sur les vertus militaires et la justice de Firouz qui circulait en Perse au 5e et 6e siècle. Et il est également possible que ces histoires, grâce à la diffusion orale, soient parvenues jusqu'à notre auteur à travers des voies que nous ne pouvons pas reconstituer avec exactitude. Mais ce ne sont pas les voies qui m'intéressent, mais la circulation. Or, une circulation de ce type est supposée par un contemporain de l'auteur anonyme, Agathias, que nous avons évoqué dans ses cours à plusieurs reprises, quand il décrit la fuite en Orient de sept philosophes néoplatoniciens déçus par la persécution de Justinien. À peu près, on est dans les années 30 du VIe siècle. Voilà le passage d'Agathias. Peu de temps auparavant, Damasios, les Syriens, Simplicios, les Cilicians, Priscianos, les Lydians, Elamios, les Phrygiens, Herméas et Dégène, tous deux de Phénicie, et Isidore de Gaza, tout ceci étant la fine fleur, pour parler comme les poètes des philosophes de chez nous à cette époque, comme la doctrine sur les tout-puissants qui dominait alors, c'est-à-dire le christianisme, chez les Romains ne les agréait pas, pensaient que le régime politique perse était bien meilleur. Ils se laissèrent persuader par ce que leur chantaient beaucoup de gens, que le gouvernement chez les Perses était parfaitement juste et tel qu'élevait la parole de Platon, la philosophie et la royauté ne faisaient quand que les sujets étaient au plus au point sage et honnête, qu'on n'y trouvait pas des voleurs ni des brigands, bien plus qu'on n'y commettait aucune injustice, mais que, même si un objet précieux était abandonné dans les lieux les plus déserts, aucun de ceux qui passaient par là ne l'emporte, mais il y reste, même sans protection, préservé pour celui qui l'avait laissé s'il revenait le chercher. Hélas, la réalité se révèle bien différente et les sept philosophes, après quelques temps, éprouvent une vive déception face à la médiocrité de Chosroès, l'empereur de la Perse. Or, ce passage d'Agathias a fait couler beaucoup d'encre, en particulier sur les liens entre ces voyages de sept sages et la prétendue fermeture de l'Académie d'Athènes en 529 après Jésus-Christ. Mais nous l'évoquons aujourd'hui en raison de la manière dont Agathias dit que les philosophes ont appris la légende de Chosroès, un roi encore vivant, comme roi philosophe, par des histoires rapportées et racontées de manière à être séduisantes. Qu'il s'agisse de traditions orales, l'attention que le même Agathias montre dans son œuvre pour les sources de l'histoire perse le confirme. Par exemple, dans le long excursus sur les costumes des Perses, Agathias n'hésite pas à inclure des histoires populaires, introduites par legetai en grec, on raconte que, etc., etc. Mais quand il passe à la présentation des listes des rois, donc une chose très concrète, Agathias prend soin de dire que sa source est la traduction grecque faite par l'un de ses amis, un certain Serge, des documents officiels des archives royales en Pélévi. C'est le passage que vous avez à l'écran. Serge releva donc les noms, les dates les plus notables de ce qui leur était arrivé et les traduisit en langue grecque. C'était en effet le meilleur de tous les interprètes qui pouvait susciter l'admiration de Chosroès lui-même, car dans chacun des états, il était au premier rang parmi les savants. Ayant donc fait une traduction très exacte de ce document, il me communique tout cela, un ami fidèle, et m'exhorta à réaliser ce pourquoi il les avait recueillis, et je l'ai donc réalisé. C'est rare que quelqu'un à cette époque-là dénonce sa source et une source de ce type-là, c'est-à-dire un traducteur du Pahlavi qui lui a donné une liste précise à diffuser. Les études récentes ont bien montré, je l'ai dit pour éviter tout malentendu, ont bien montré qu'Agathias est plus précis et plus digne des fois que l'on croyait dans le passé. La manière dont il exprime dans ces passages que nous venons de voir fait clairement allusion à différents types de sources, orales, écrites, traduites, etc. Or, laissons de côté la figure du traducteur Serge et concentrons-nous sur ce que les philosophes entendent dire à Athènes. Comment ces histoires leur parvenaient-elles? les contacts et les échanges culturels entre la cour sassanide et les intellectuels grecs et syriaques sont bien documentés à cette époque. Et l'hellénisme de la cour perse est évalué différemment de l'image qu'anche peu dérisoire qu'en donne Agathias. Et cela a commencé justement en France après un article fondateur de Dunod de 1966. Même si nous ne sommes pas en mesure de donner une physionomie précise à la transmission orale, passée ou non par l'intermédiaire du syriaque, comme certains savants ont suggéré, celle-ci devait sans aucun doute exister. On ne doit pas non plus sous-évaluer l'apport d'informations, la curiosité, les impressions que les ambassadeurs rapportaient et qui a sûrement dépassé les comptes rendus officiels. Libanius, par exemple, déjà au IVe siècle, le dit expressément dans un passage qui a été mis en valeur à juste titre par Anthony Caldelis dans son récent volume Ethnography After Antiquity. Il s'agit d'une lettre dans laquelle Libanius parle de Spectatus, de son cousin Spectatus, qui avait participé en qualité de notarius à une ambassade en Perse. Et c'est intéressant cette lettre pour les réactions des gens quand Spectatus retourne. Voici Spectatus de retour chez nous, de son ambassade, et bien des gens le jugent erré. Les uns parce qu'il a vu beaucoup de pays, des montagnes et des fleuves, les autres parce qu'il a vu les gens des villes perses, les mers et les lois qu'il observe. D'autres tenaient pour une grande chose les spectacles du souverain lui-même et des pierres qui les paraient. D'autres encore jugeaient grandiose que celui qui avait donné des cadeaux en reçu à son départ. À moi aussi, cela me paraissait avoir quelque charme, mais le plus beau était que l'on repartit après avoir montré le pouvoir d'un retour à Sius. Libanius toujours a la rhétorique comme son le centre principal de ses intérêts. L'intérêt dont les lettrés tardo-antiques font preuve à l'égard des autres cultures, même sous l'escorte des exemples classiques, bien sûr, évidemment, qui connaît Hérodote et d'autres se trouvent à l'aise avec les passages qu'on vient de voir. C'est un thème qui a été beaucoup étudié, plus récemment dans les volumes d'Anthony Caldelis, que je viens de rappeler. Et le caractère multiculturel de la Méditerranée tardo-antique est un aspect qui a suscité ces dernières années un grand intérêt. Dans la perspective que nous avons adoptée dans ces cours, celle de l'oralité, je voudrais brièvement analyser les conséquences de la transmission orale des notions, d'idées et des thèmes sur les textes et la perméabilité d'environnement culturel tel qu'elle se reflète dans la haute littérature. En d'autres termes, je voudrais essayer d'appliquer au texte, ce que nous pourrions définir comme une mise en contexte dans le quotidien, afin de sortir aussi de la perspective livresque trop centrée sulla intertextualité et la recherche des sources, qui est ancora très prégnante dans les études littéraires. Comme nous l'avons fait les autres fois, je vous proposerai l'analyse de quelques cas particuliers qui proviennent de Dionysiaque de Nonnos. Je commence par un problème typique des sources littéraires pour proposer une solution complètement différente. Et ce sont les passages que vous avez à l'écran. Dans la deuxième partie, le livre 13-40, le Dionysiaque raconte la guerre de Dionysios Anand et sa victoire contre les Andiens qui, dans la perspective du poète, représente la barbarie et la mauvaise croyance qui doit être rachetée. Une fois que les Indiens ont été défaits, un roi client du nom Modaios leur est imposé. Ce sont les passages à l'écran. Les dieux donnent aux Indiens suppléants un souverain pieux, Theudea, Theudes. C'est Modaios qu'il choisit. Or, le choix de ces personnages n'a pas manqué de surprendre les commentateurs de Nonnos. En effet, Modaïos avait déjà été mentionné dans le livre Trandé comme un redoutable guerrier. Dans ce passage, le second à l'écran, Arès lui-même, le dieu de la guerre, prend son aspect pour combattre l'armée dionysiaque. Arès a pris l'apparence de Modaïos, ce champion qui, insatiable de la guerre plus que tout autre, n'a du goût qu'en sang dégoûtant et trouve plus d'attrait au carnage qu'au festin. Voilà, ce n'est pas trop difficile d'imaginer la solution qu'on a proposée. Nonnos ici réutilise plus ou moins à propos un modèle littéraire. Le nom Modaïos, en fait, est d'origine crétoise, est appris dans un texte du 1er siècle après Jésus-Christ, les Bassarica, dans ce temps Dionysios, un poème qui racontait la campagne de Dionysos de Bacchus contre les rois indiens d'Eriade. Cette œuvre qui nous est connue seulement à travers des fragments de papyrus, on a trois papyrus du 2e siècle et un du 4e, 5e, à travers quelques citations de l'œuvre géographique d'Étienne de Byzance, fut sûrement lu et imité par Nonnos, ça c'est sûr. Dans les fragments les plus longs qu'il nous reste, un certain Modaïos, le nom vous l'avez à l'écran, c'est le fragment 33 verso Benaïssa, est capturé par les Bacchans et déguisé pour un cerf pour être offert comme victime aux Indiens. En raison des mauvais états du papyrus, de nombreuses caractéristiques du passage demeurent peu claires à vrai dire, mais le nom est là, aucun doute. Malgré ces apparents parallèles, la surprenante transformation de Modaïos chez Nonnos dans le champ 40, qui de redoutable guerrier devient un chef craignant des dieux Théudéa, est d'ordinaire interprété comme le signe que toute l'histoire avait été développée dans les parties de Bassarica que nous n'avons pas. C'est-à-dire, comme d'habitude, on a une source fragmentaire où il y a un nom. Ce qui est un peu, disons, difficile à expliquer dans Nonnos, on dit d'habitude, voilà, c'était dans la partie qu'on a perdue de la source. Ça, c'est un raisonnement typique della filologia pointue. Ora, il est certes probable che Nonnos soit tombé sur le nom de Modaïos dans les poèmes de Dionysios. Et il est tout aussi raisonnable de penser qu'il a voulu réutiliser les personnages en faisant varier sa source. Je ne peux pas dénier ça. Cependant, le choix de Modaïos comme nouveau roi des Landes demeure surprenant. Et je me demande si ne pouvons pas faire un pas de plus et suggérer une raison différente pour le choix de Nonnos. Au milieu du 5e siècle, quand Nonnos composa ses Dionysiaques, sur la scène géopolitique égyptienne était apparu un nouveau royaume puissant, celui d'Aksum, dont le souverain avait embrassé le christianisme. C'est donc avec une certaine surprise qu'on constate que le nom de Modaïos est très proche de celui qui régnait à la moitié du 5e siècle sur le royaume d'Aksum, le quelque peu énigmatique Madahuyas, connu seulement par des témoins numismatiques, ce sont les monnaies que vous avez à l'écran. Du point de vue linguistique, rien n'empêche, voilà, une correspondance entre les Grecs et les Gaises, des Modaïos avec Mahadouyas, car Modaïos pourrait représenter une forme comme Mahadaios ou Mahadaios, l'abaissement de la voyelle quand elle se trouve en position voisine d'un guttural peut avoir facilité cette transformation en grec, en nom. Or, si cela est vrai d'un point de vue linguistique, j'ai même demandé l'avis des collègues éthiopisans comme Alessandro Bosi qui me l'ont confirmé, si cela est vrai, le passage de Nonnos représenterait l'unique attestation littéraire, bien qu'indirecte, dannum diurua ad axum modaius u mahaduias. Vous voyez que partant d'un simple problème des sources littéraires, la question s'élargit. Or, je me demande, est-il plus probable que le public de Nonnos ait entendu parler d'un obscur personnage d'un poème du 1er siècle après Jésus-Christ, qui probablement très déjà lisé, ou bien du roi d'un puissant royaume chrétien qui entretenait des rapports commerciaux et des échanges avec l'Égypte et le monde byzantin? Naturellement, on peut se contenter de la coïncidence avec la source littéraire et penser que tout ce qu'il y a dans les poèmes de Nonnos est le fruit des lectures approfondies et étendues et d'un projet de récupération intégrale du passé littéraire par un poète qui était renfermé dans son tour d'ivoire. Or, je n'y crois pas, et il faut dire que l'un des mérites des études nonnianes de ces dernières années a été de montrer à quel point le poète fait allusion à la réalité contemporaine et combien il dialogue avec la société de son temps. Du reste, les Éthiopiens sont bien présents dans les poèmes de Nonnos. Ils sont souvent l'objet d'une confusion tout à fait traditionnelle et consciente avec les Indiens et ce qu'on appelle les Éthiopiens d'Asie. Il s'agit d'un véritable modèle culturel qui a été reconstruit par Pierre Schneider, qui a dédié un entier livre à cette confusion entre l'Inde et l'Éthiopie. Nonnos, dans plusieurs passages, il parle de l'Éthiopie, et je voudrais discuter avec vous ce passage-là qui est très important de mon point de vue. Au chant 17, les Blemmies, qui étaient des brigands à peu près, qui causaient pas mal de troubles aux Égyptiens et qui sont dans les poèmes de Nonnos confondus avec les Éthiopiens ou Indiens, sont, de manière tout à fait surprenante, caractérisés en termes amélioratifs. C'est une chose qui, pour un Égyptien né dans la région de Thèbes, est plutôt singulière, car les Blemmies étaient une menace constante pour la région de Thèbes. Je vais lire la traduction de Francis Vian. Et Blemmies, à la tête crépue, chef des Indiens de l'Érythrée, portant les rameaux pacifiques de l'olivier des suppliants, plie en genoux à servi devant Dionysos, l'exterminateur des Indiens. Et les dieux, à la vue de l'homme prosterné contre terre, les prend par la main, les relève avec son peuple au palais d'hiver, il l'envoie loin des noirs indiens de l'Érythrée, lui qui détestait la tyrannie et les mers de Dériade, vers les côtes de l'Arabie, où près de la mer voisine, il habite une terre bénie et donne son nom à ses sujets. Et Blemmies se hâte d'arriver à l'embouchure du Nil aux sept bras pour devenir le porte-sceptre des Éthiopiens dont il a les couleurs. Le territoire de Méroé à l'éternel était l'accueil, ce chef qui porte déjà le nom de Blemmies à venir. Le passage était toujours lu soit comme la preuve du paganisme de Nonnos, parce que les Blemmies étaient païens, soit comme les témoignages d'un traité entre l'Empire et les Blemmies afin de trouver un ancrage chronologique sur au poème. Or, il faut dire qu'il y a quelques traités entre l'Empire romain et les Blemmies, mais aucun traité qui tombe exactement dans la période dans laquelle nous pensons que Nonnos a écrit son poème. Le passage, il est vrai, démontre une connaissance quelque peu approximative de la zone entre la vallée du Nil et la mer Rouge, et plutôt que de refléter un événement réel, je pense, comme une trêve par exemple, je crois qu'il doit être entendu comme une représentation édulcorée de la réalité, qui exorcise en quelque sorte la peur que ces populations provoquaient au 5e siècle et altère la mémoire culturelle. En bref, les Blemmies éthiopiennes dévouées à Dionysos et pacifiques racontent une histoire dans les termes de ce qu'on appelle une histoire d'habitude un wishful thinking. Ils sont pacifiques, parce qu'ils sont soumis au christianisme et constituent désormais un royaume chrétien allié de l'Empire. C'est-à-dire, à travers l'identification des Blemies avec les Éthiopiens, Nonos l'épée représentée comme pacifique parce que les gens savaient que les Éthiopiens étaient christianisés et donc avec des rapports pacifiques avec l'Égypte. Aksum, justement, c'était un royaume qui avait des relations commerciaux avec l'Égypte, sont attestés des échanges, disons, des objets d'art, etc. Et, c'est une chose qui a été bien étudiée dans les derniers années par Jacopo Nisci, qui enseigne à Londres. Or, pour revenir à notre Modaios, vous voyez comme dans l'Égypte de la moitié du 5e siècle, qui entretenait ses rapports avec Aksum, non seulement la connaissance de ces puissants royaumes chrétiens était diffusée, mais encore le nom des rois était probablement connu. Il n'est pas nécessaire donc de supposer une source littéraire précise pour justifier l'utilisation d'un nom comme Modaios. C'est exactement ce qu'on entend par mise, que je voudrais entendre pour mise en contexte dans le quotidien. La littérature qui s'inspire de la réalité et qui propose quelque chose de compréhensible à son public. Permettez-moi une petite digression. Ce jour-là, je viens de découvrir les romans de Giuliano da Empoli, Les mages du Kremlin, qui a eu un grand succès et dont je viens de terminer la lecture et que j'ai beaucoup apprécié, à vrai dire. C'est un roman sur les coulisses de l'ascension et de la consolidation du pouvoir de Poutine. Or, pour le lire et l'apprécier, il ne faut pas être expert de l'histoire récente de la Russie, il suffit bien d'avoir la connaissance que chacun de nous, même sans jamais être allé en Russie, a de certains événements et des noms des protagonistes, surtout des noms, je dirais. Une connaissance que nous avons à travers diverses sources, c'est vrai, non disponibles à l'époque tardo-antique, comme la télé, mais qui passe également par la discussion, les points de vue exprimés entre amis, ou peut-être dans un café, etc. Insomma, également par la circulation orale d'idées, d'impressions et de nouvelles. C'est à peu près ainsi que m'imagine que cela devait se passer à Alexandrie, une noce composée de Dionysiaque, concernant la connaissance du royaume d'Aksum. Dans les études sur le multiculturalisme et le multilinguisme dans l'Antiquité tardive, aujourd'hui très en vogue, l'Égypte occupe une place de choix, surtout en raison de la présence toujours croissante à partir du IVe siècle de la production littéraire copte. Les études de Tito Orlandi, Paolo Abuzzi, Alberto Camplani, Jean-Luc Fournet, entre autres, ont bien montré la profondeur, même insoupçonnée, des rapports entre grecs et coptes. Permettez-moi de traiter ces points encore une fois à travers les prismes de la poésie nonienne. Originaire de Panopolis, où il est sans doute formé et où existait un environnement multiculturel, ben représenté par la bibliothèque Bodmer, comme nous l'avons vu la fois précédente, actif dans la cosmopolite Alexandrie, où il a composé ses poèmes, Nonos représente bien des aspects que nous avons isolés comme caractéristiques de la société et de la culture tardive dans ses leçons. L'une des raisons pour laquelle Nonos est si attrayant pour notre sensibilité est précisément sa capacité à faire s'affondrer les frontières culturelles, non seulement les frontières entre hellénisme et christianisme, ma aussi celles entre traditions littéraires et société contemporaine, on vient de les voir. En cela, sa poésie est une source majeure pour mieux comprendre le melting pot culturel de l'Égypte tardo-antique. L'effet d'étrangeté et d'artificialité che provoque sa poésie si savante et lettrée, laquelle laisse toutefois entrevoir dans ses vers un intérêt profond pour la réalité contemporaine, on peut le dépasser, nous l'avons vu, à travers l'analyse de ses modalités communicatives et de leur impact sur le public. Il reste une large zone d'ombre qui attend encore d'être explorée de façon systématique, qui est celle du rapport entre nonnos et la culture copte, c'est-à-dire entre nonnos simplement et l'environnement dans lequel il est né et a vécu. En 2016, dans un beau article sur la culture de Panopolis, le papyrologue Peter van Minnen a vigoureusement soutenu la thèse de l'osmose entre l'environnement culturel grec et l'environnement culturel copte. À l'écran, vous avez l'une de ces phrases assez éloquente, où il imagine, quand il était encore un étudiant à l'école, est allé écouter les grands chenoutés, les grands moines chenoutés qui parlaient probablement en coptique, soit dans les dialectes saïdiques, soit dans les dialectes d'akmimiques. Il s'agit évidemment d'une pure spéculation, mais qui n'est pas trop éloignée de la réalité, à mon avis. En effet, l'analyse précise révèle un certain nombre de coïncidences entre les types de structures rhétoriques et d'images employées par Nonnos et celles qui se trouvent dans les écrits de Chenouté, qui était, je vous rappelle, le fondateur du monachisme copte. Il s'agit d'une vaste gamme de coïncidences qui vont de la rhétorique all'aggressivité du langage, dell'invective, très similaire chez Nonnos et dans les attaques contre les païens de la part de Chenouté, ou au sein de résistance contre Dionysos que Nonnos dessine avec des éléments qui rappellent les histoires d'affrontements religieux dans les campagnes égyptiennes. Au thème encore qu'il si ritrova nell'omiletica. Ces dernières années, il m'est arrivé de les illustrer dans certains travaux que vous avez à l'écran. L'opposition traditionnelle entre une littérature copte nationale et la littérature grecque des élites, aujourd'hui abandonnée, au profit des modèles interprétatifs fondés sulla coexistence et sur le multilinguisme. Les œuvres en copte étaient souvent composées par des auteurs qui avaient reçu une éducation qui n'était pas différente de celle des auteurs grecs. En effet, l'école explique bien une grande partie des coïncidences que je viens de rappeler. Les classes de grammaticoi, comme celle de rhetores, devaient être fréquentées par des élèves parlant grec et copte, en supposant qu'on puisse toujours faire cette distinction. En effet, l'usage des structures rhétoriques qui étaient apprises à l'école, comme les psogos, l'invective ou le panégyrique, ou les exercices préliminaires comme l'étopée ou la paraphrase, se traduit parfois dans des coïncidences surprenantes entre des textes très variés, même si c'est l'école ne justifie évidemment pas tout. Permettez-moi de reprendre l'un des petits poèmes du Codex des Visions, les recueils des poésies chrétiennes provenant de la bibliothèque dans les environs de Panopolis, la bibliothèque Bodmer, dont nous avons parlé la fois précédente. Il s'agit d'un poème malheureusement fragmentaire sur les paroles de Caïn. Je ne vais que lire le début. Que pourrait dire Caïn après avoir tué Abel? Où aller, il commence, où fuir à travers les airs, où sur les chemins de la mer et de la terre. Et ensuite, il mentionne la terre, les spontes, etc. Or, ce poème est une expansion du récit de la Genèse, conduite selon une structure typiquement scolaire, celle de l'étopée. De façon un peu surprenante, cette structure, on la retrouve à l'identique, même sur le plan verbal, dans un passage de Dionysiaque de Nonnos, où il est question d'une nymphe qui ne sait pas comment échapper au monstre Typhée. Voilà, vous avez la traduction du passage de Nonnos, et en rouge sont les correspondances entre les deux textes. Je ne lis que le début, où donc fuir, je m'étapirai sous les roches, non ces collines lancées contre l'Olympe, ont été réduites en cendres par la foudre, par la foudre, encore à que je n'ai des ailes légères, par le chemin du sel, je vais m'en aller, etc. etc. Or, il est évident que non osse les poètes du poème Baudemaire réutiliser les mêmes modèles d'exercices préliminaires qui exemplifient les doutes de quelqu'un qui voudrait se cacher. Quelle parole pourrait prononcer quelqu'un cherchant à fuir? Un modèle que les deux poètes avaient appris sans doute, sans aucun doute à l'école. Pour Nonos, le constat suffit à expliquer sa structure. Mais pour les poèmes chrétiens sur Caïn, je crois que non. En fait, l'idée de la impossibilité de trouver un endroit où se cacher coïncide plutôt avec certains passages scripturaires, surtout des psaumes. Vous avez à l'écran ces passages-là, un passage qui vient du psaume 138. Nous avons besoin de rappeler que les psaumes étaient connus par cœur. C'était un état plutôt élémentaire de l'éducation. Or, comment il faut juger cette coïncidence entre, avec nos noces et les psaumes en même temps? L'auteur du poème Baudemaire a évidemment réutilisé une structure qu'il avait appris peut-être à l'école, mais il l'a fait pour créer quelque chose de nouveau en greffant à la structure scolaire un élément biblique. Et cela est complètement neuf. Dans un contexte d'anachorète chrétien, tel qu'était celui de la communauté des justes au sein de laquelle le poème a circulé, pour apprécier les paroles de Caïn qui ne sait où se cacher, la connaissance des passages bibliques et leur exégèse était une clé d'accès plus immédiate qui permettait d'en apprécier la structure même pour celui qui n'avait pas étudié les progymnasmata. C'est-à-dire, ça suffit de connaître la Bible plutôt qu'un exercice scolaire pour suivre les poèmes chrétiens, les poèmes de Caïn. Donc, on a ici deux perspectives différentes. L'auteur qui combine un exercice scolaire avec les thèmes bibliques et le public qui, grâce à sa connaissance des psaumes, peut suivre cette structure. Évidemment, il n'y a aucun rapport direct entre Nonos et ces poèmes-là. Je l'ai dit juste pour éviter tout malentendu. Reconstruire l'influence que l'environnement a eu sur un poète sur son œuvre, nous l'avons vu, est un exercice complexe. Surtout, je crois, la traditionnelle analyse philologique intralinguistique, c'est-à-dire grec sur grec, n'aide que peu dans ce genre de poèmes. Permettez-moi d'expliquer ce que veut dire par l'analyse d'une image qui est très fréquente dans la poésie de Nonos. Et en prenant en considération, pour une fois, un passage de son poème chrétien, la paraphrase de l'Évangile de Jean. Je vous rappelle que Nonos, outre le Dionysiaque, a écrit un paraphrase en hexamètre de l'Évangile de Jean. Dans ce poème, le poète d'habitude suit la trame du texte évangélique, mais il a la tendance à la développer et ajouter des détails qui sont généralement significatifs au niveau exégétique et rituel. C'est justement le cas pour le passage que nous allons lire. Vous voyez, à l'écran, vous avez le passage de l'Évangile de Jean, qui est très simple, et la façon avec laquelle Nonos traduit le texte de l'Évangile. Si donc vous aviez contracté avec moi l'alliance indissoluble de l'amitié, vos pieds bondiraient de joie et vous partagerez mon bonheur quand je quitte la terre pour retrouver enfin le Père qui m'a envoyé. Toute personne connaissant en tant soit peu la poésie nonienne ne sera pas étonnée de cette façon de rendre le passage de Jean. En fait, la danse et les images qui lui sont attachées sont très fréquentes dans les Dionysiaques. Dans les poèmes chrétiens de Nonos, cependant, elles sont moins fréquentes, pour des raisons évidentes, parce que Jean ne parle jamais de la danse dans son évangile, mais quand même, ils ne sont pas non plus absents. Dans ce passage, Jésus souligne que si les disciples devaient l'aimer de la bonne manière, en sachant qu'il se tourne vers le Père, ils exprimeraient leur joie avec des sauts, skirtisate en grec, et partageraient leur joie, xinon karma ferundes. L'adjectif xinos, comment, a été expliqué à l'aide de sa signification doctrinale, la joie partagée par toutes les personnes qui vivent dans le Christ, mais il indique aussi que les disciples dansent tous ensemble. Ce n'est pas une invention de nonos. Le Christ qui danse avec les disciples est une image que l'on trouve dans la section gnostique des Actes de Jean, un apocryphe du IIe siècle, où les apôtres dansent en cercle autour du Christ. Vous avez le passage à l'écran. Je ne vais pas lire, c'est un passage très connu d'ailleurs. Il est bien possible que Nonnos connaissait les Actes de Jean. Leur présence comme antel-texte a été supposée par Domenica Corinti, par exemple, pour le chant 34 de Dionysiaque. Et les actes étaient présents sous une forme de réécriture dans les communautés manichéennes du IVe siècle, dans l'oasis de Dakhla et dans les Fayoum en Égypte. En tout cas, ce n'est pas le seul texte qui décrit les apôtres qui forment un cercle et dansent autour de Jésus. Le maigre reste de ce qu'on appelle l'évangile copte du Sauveur, connu par un manuscrit de Berlin et par quelques fragments de Strasbourg, présente une scène très semblable, clairement inspirée des actes de Jean. Et encore, en 2009, Peter Ubay a publié un codex du IXe siècle, provenant du monastère de Qasr el-Wisa, en Nubie, avec quelques apocryphes coptes. Il s'agit d'un texte qui s'appelle « Le Wörter des Erlöser », un discours du Sauveur sur la croix, et un hymne intitulé « Die Tanze des Erlöser », « La danse du Sauveur ». Ces deux textes devraient être datés de la fin du IVe siècle, vous avez un extrait ici, et sont probablement des productions locales égyptiennes. Dans un article de 2013, Peter Dilley a étudié la danse du Sauveur à la lumière de l'appropriation chrétienne du langage du symbolisme lié à Dionysos et à David, en se concentrant en particulier sulla fonction liturgique de la danse dans l'Antiquité tardive. De fait, malgré la condamnation de la danse comme pratique païenne ou hérétique dans les sources patristiques, divers témoignages sont attestés sur le rôle de la danse dans les occasions liturgiques et dans les cérémonies publiques de l'Antiquité tardive. Par exemple, la danse faisait partie de la manière commune d'exprimer la joie pendant les fêtes des martyrs. Nous le savons par des passages de Grégoire de Nazianze ou de Saint-Augustin. En Égypte, la danse jouait un rôle dans la pratique liturgique des Mélitiennes, mais elle était probablement plus diffusée si elle continuait d'exister comme part de la liturgie du christianisme éthiopien, qui dépend normalement de l'usage égyptien. Et les sources coptes nous rappellent que la danse jouait un rôle dans la doctrine chrétienne et ne si limitait pas aux spettacles publics ou aux occasions officielles comme les cérémonies de l'Adventus, par exemple. Vous avez ici à l'écran un passage du récent livre de David Frankfurter, Christianizing Egypt, où il est question justement du rôle de la danse dans la liturgie. Où il mentionne aussi cette magnifique représentation d'une danse des guerriers autour de la Vierge Marie. Alors, tout ça pour dire une chose très simple. Peut-on penser qu'un chrétien de Panopolis, comme Nonnos, ignorait cette tradition de la danse liturgique? Au contraire, cela devait être pour lui quelque chose d'inhérent à sa formation. Comme première conséquence, c'est cela qui m'intéresse, nous devrons considérer sa prédilection pour les images et le vocabulaire de la danse, également d'un point de vue chrétien. Et non seulement à la lumière de la popularité de la pantomime et du caractère traditionnellement dionysiaque de la danse, pensez au tissu copte, etc. Ce qu'on dit d'habitude, si vous lisez presque toute la bibliographie sur Nonnos, on dit d'habitude que Nonnos aime la danse parce que la danse est connectée au monde de Dionysos. Moi, je pense que non, il y a quelque chose de plus. Et je pense que pour un chrétien comme Nonnos, la danse faisait partie de son expérience quotidienne. Expérience liturgique, familiarité avec l'iconographie domestique et formation culturelle grecque s'entremêlent de façon inextricable. Et voilà ce que j'entends avec mise en contexte en quotidien. Et je vais conclure. Nous sommes parvenus à la fin de ce bref parcours à travers les voies de l'hellénisme tardo-antique. Nous avons vu de nombreux exemples et abordé des domaines très divers, la poésie épique, la poésie chrétienne, les inscriptions en vers, la prose d'art, l'historiographie. Dans un volume récent sur l'oralité dans la littérature du premier et du deuxième siècle après Jésus-Christ, son éditrice, Consuelo Ruiz Montero, a observé que l'oralité est par nature un domaine apeiron, difficile et impossible à définir, mais en même temps un sujet fondamental, voire écrasant. C'est une constatation que je fais volontiers mienne, conscient qu'au cours de ces conférences, nous n'avons plus que sondé la surface d'un vaste océan. En partant des modalités de diffusion de la littérature à travers des performances publiques, dans des lieux désignés, les théâtres, les auditoria, etc., et des occasions spécifiques, concours dans le cadre des festivals, dédicaces des monuments, fêtes et célébrations religieuses, qui sont bien connues d'ailleurs, je me suis arrêté sur des aspects qui sont au contraire encore peu connus. Les raisons profondes de nouvelles structures rythmiques de la poésie et de la prose de l'Antiquité tardive, la mise en page comme élément signifiant de l'épigraphie métrique et comme clé de la lecture performative, la transformation de la paideia classique en facteur social, porteur d'identité et de valeurs politiques, mais aussi de nouvelles significations religieuses. La dimension orale de la production culturelle de l'Antiquité tardive est un trait unificateur de ces aspects et le vecteur d'une redéfinition de l'hellénisme qui devient plus démocratique au sens de Saint Thomas Zarino, en s'ouvrant aux influences d'en bas et des périphéries, en donnant la citoyenneté à des expériences littéraires caractérisées par la confession religieuse, la nouvelle poésie chrétienne, par exemple, et à des textes qui, bien que de moindre niveau d'élaboration formelle, dialoguent avec la littérature des élites et véhiculent les prestiges de la paideia grecque. Reconstituer le chemin que les voix ont emprunté avant de se fixer dans les textes et ce que les voix des textes empruntent après n'est pas une tâche facile. On éprouve parfois le même étonnement que Chloé, qui dans une scène délicieuse du roman pastoral de Longus, 3e siècle, entend l'écho d'un chant de marin se refléter dans les rochers derrière les rivages. N'ayant jamais entendu l'écho, Chloé tourne les yeux dans les mauvais sens jusqu'à ce que Daphnis lui explique le phénomène. Lorsque j'ai commencé à travailler sur ce sujet, j'avais l'impression de regarder moi aussi dans les mauvaises directions, ou plutôt de ne pas savoir où regarder. Puis, lentement, l'analyse minutieuse, ce que le grand byzantiniste Ior Shevchenko appelait les travaux du caterpillar, la chenille, permet de se faire une idée globale du phénomène, la vision du butterfly, toujours après Shevchenko. De mon point de vue, l'enquête dont je vous présentais les grandes lignes vise avant tout à corriger la vision livresque de l'Antiquité tardive qui a du mal à disparaître, surtout chez les philologues. Cela ne signifie pas, bien entendu, qu'il faille minimiser l'importance de l'élaboration formelle des textes, qui était la base de l'éducation de l'Antiquité tardive, mais il faut prendre conscience que la voix des textes était la manière dont ils vivaient dans la société. Cela signifie qu'il faut toujours penser au public et à ses réactions. Et c'est le public, cet objet mystérieux, qui est le véritable protagoniste de l'oralité de l'Antiquité tardive, à tous les niveaux, comme nous l'avons vu. C'est ce qui rappelle, et je vais conclure avec ça, de façon très efficace, Jean Chrysostome, le grand savant chrétien, qui dans son écrit du 4e, 5e siècle, qui dans son écrit sur les sacerdoces, parle exactement de la réaction du public qui écoute un de ses sermons à l'église. C'est dépenser beaucoup de peine pour préparer les discours qu'on adresse à l'assemblée du peuple. Tout d'abord, la plupart de ceux qui sont soumis à l'autorité ne veulent pas considérer ceux qui parlent comme des maîtres, mais ils dépassent le rôle des disciples et prennent celui des spectateurs si géants comme dans les joutes littéraires qui se livrent chez les païens. Mais nous sommes dans une église. Et de même qu'ici, la foule se partage et que les uns s'attachent à celui et les autres à celui-là. Ainsi chez nous, ils se séparent en deux classes. Les uns étaient pour celui-ci et les autres pour celui-là. Ils écoutent ce qu'on leur dit, soit avec faveur, soit avec hostilité. Vous imaginez pendant le service ce type de réaction. Et ce n'est pas seulement cette attitude qui est pénible, mais il y a une chose qui ne l'est pas moins. En effet, s'il arrive que l'un des orateurs introduise dans son propre discours un texte qui a été élaboré par d'autres, il s'expose à des injures plus nombreuses que les voleurs d'argent. Or, souvent, il n'a rien pris à personne, mais il suffit qu'il soit victime d'un soupçon pour subir les sortes de voleurs. Et que parle-je d'un texte élaboré par d'autres ? On ne lui permet pas de se servir habituellement de ce qu'il a trouvé lui-même, car la foule a l'habitude d'écouter non pour en tirer profit, mais pour son plaisir, comme ceux qui siègent pour juger des acteurs tragiques ou des joueurs de sitar les prestiges de l'éloquence que nous avons désormais banni, selon une tradition qui commence avec Saint Paul, deviennent aussi désirables qu'il est pour les sophistes lorsqu'ils sont contraints de lutter les uns contre les autres, et plus encore. Il est donc besoin, dans ce cas, d'une âme généreuse qui dépasse de beaucoup notre mesquinerie pour réprimer les plaisirs incontrôlables et vains de la foule et pour pouvoir ramener audition à quelque chose de plus utile, afin que le peuple suive le prédicateur et cède à son influence et non pas que ce soit le prédicateur qui soit emporté par les exigences de ces gens-là. Cet incoercible plaisir de l'écoute nous rappelle de manière très nette que les textes ne vivent pas seulement dans d'autres textes, mais avant tout dans la société qui les a produits et les consomme. Ce n'est pas un truisme de la rappeler pour une époque où la littérature est toujours interprétée à la lumière d'une intertextualité parfois exsangue. Je crois au contraire que l'écoute des voix des textes et de leur écho est un moyen efficace de ramener cette littérature sur terre, là où elle donne le meilleur d'elle-même. Et je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.